France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Ce n'est pas franchement de saison et pourtant, les épreuves du baccalauréat vont bientôt commencer. Les fameuses épreuves communes de contrôle continu, surnommées les E3C, débuteront en effet dans une dizaine de jours pour certains élèves de première, à partir du 20 janvier, pour d'autres ce sera en février ou début mars. Mais de toute façon, au deuxième trimestre, on parle là du baccalauréat 2021. Je ne sais pas si vous me suivez, les élèves de première vont en effet commencer à passer les épreuves avant ceux de terminale. C'est le résultat de la réforme voulue par Jean-Michel Blanquer pour alléger les épreuves finales et permettre un meilleur contrôle continu. Le problème, ce sont les incertitudes qui entourent ces épreuves communes de contrôle continu. Plusieurs syndicats d'enseignants, mais aussi des chefs d'établissement et les parents d'élèves de la FCPE ont fait part de leur inquiétude en dénonçant une impréparation générale. Je les cite, une intersyndicale demande même le report des épreuves. Alors ce soir, on va tenter de répondre aux questions que vous vous posez avec nos invités. Édouard Geffray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire. Sophie Vénétité, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, membre du comité de suivi du baccalauréat. À nos côtés également, Sonia Princet, bonsoir.
Bonsoir.
Sonia, vous suivez les questions d'éducation à la rédaction de France Inter depuis des années. Alors n'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous êtes parent, élève, enseignant ou responsable d'établissement. Le Standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier appel nous vient de Caen. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant, Didier, c'est ça ?
Je suis enseignant d'histoire-géographie, oui, dans un lycée de Caen.
Et alors, comment ça va se passer chez vous ?
Alors, comment ça va se passer ? Nous avons décidé, à l'unanimité, donc des différentes matières concernées par les E3C, de ne pas donner les sujets à notre chef d'établissement. Ah, donc nous boycottons donc le choix de sujet et nous en laissons la responsabilité donc à nos inspecteurs pédagogiques régionaux, hein, puisque nous ne voulons pas prendre la responsabilité de mettre nos élèves en extrême difficulté devant l'état d'impréparation des sujets qu'on nous a livrés en plus très tardivement, seulement début décembre, dans la Banque nationale des sujets.
Ces sujets vous conviennent pas, Didier, expliquez-nous pourquoi.
Ils ne nous conviennent pas parce qu'ils sont déjà extrêmement difficiles pour la plupart des élèves. Ils ne sont pas complètement cohérents, donc à tel point qu'ils ne sont si peu cohérents que nos inspecteurs nous disent, eh bien finalement on ne donnera pas toutes les questions. Donc on écrira au tableau au début de l'épreuve qu'il ne faudra pas traiter telle ou telle question parce qu'elles sont trop difficiles. Ça c'est pour l'histoire-géographie, mais c'est le cas aussi donc en mathématiques, cette fois-ci dans la série technologique, et puis par exemple en italien. Hein, donc vous voyez un petit peu, donc sur le plan pédagogique, c'est totalement aberrant. Moi, je suis un enseignant chevronné maintenant, assez près de la retraite finalement, et je n'ai jamais connu cela.
Et comment réagissent vos élèves quand vous prenez ce genre de décision ?
Alors déjà, nos élèves, ils sont stressés, extrêmement stressés depuis le début de l'année. Hein, donc parce que effectivement il y a une pression même au quotidien puisque le contrôle continu maintenant fait partie intégrante du bac et donc il y a un stress très très important. Donc nous ne voulons pas rajouter la catastrophe au stress. C'est-à-dire que quand ils vont se trouver devant les épreuves, ils vont totalement paniquer, ça risque d'être catastrophique. Donc d'où notre décision, nous de toute l'équipe enseignante, je le rappelle, en pleine responsabilité, hein, de dire nous ne voulons pas être responsables d'une catastrophe. Et les élèves, finalement, bien, ils le comprennent.
Merci Didier pour cette intervention. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Comment vous réagissez quand vous entendez cet enseignant, qui n'est pas le seul sans doute à avoir pris une décision comme celle-ci ?
Alors, il y a plusieurs dimensions. La première chose, c'est que ce monsieur évoque le choix des sujets dans la Banque nationale de sujets. En histoire géo, en l'occurrence, il y a 800 sujets au choix. Donc je suis étonné qu'il n'ait pas trouvé chaussure à son pied, si vous me permettez l'expression. Il y a donc 800 sujets en histoire géo, il y en a quelque chose comme 120 en anglais, il doit y avoir 70 ou 80 en espagnol, etc. Donc il y a un large choix de sujets qui doit permettre, et c'est ça l'enjeu, et j'en viens aux élèves, de faire passer des épreuves aux élèves sur la partie du programme qu'ils ont travaillé. Et l'intérêt, c'est que l'élève n'a justement qu'à réviser 3 mois de cours pour passer une épreuve qui correspond à ce qu'il a appris, et non pas 6 mois ou 9 mois si on le passait en fin d'année ou si on le passait l'année prochaine, etc. Donc, première chose, il y a un large choix de sujet. Deuxième chose, et c'est quand même ça l'essentiel, je reviens sur l'importance pour les élèves. Nous avions avant un bac qui était un bac contraint en termes de voie que vous choisissiez, de section, S, E, S, L, etc. Nous avions un bac dans lequel les élèves passaient un rush à la fin, et nous avions un bac qui, d'un point de vue strictement pédagogique, ne leur servait à rien, puisqu'ils n'avaient pas accès à leurs copies, et d'ailleurs que ça n'avait plus aucun intérêt d'y avoir accès. Nous avons désormais un bac qui est un bac où on choisit ses spécialités, qui est un bac où on passe progressivement ses épreuves, et qui est un bac où on a accès à ses copies. Et les E3C permettent d'accéder à une copie corrigée pour pouvoir précisément avancer.
On va revenir sur la philosophie générale de cette réforme, Edouard Geffray.
Oui, mais parce qu'il faut bien comprendre ça, parce que ensuite, on a effectivement des personnes qui vont peut-être faire comme ce monsieur, c'est-à-dire qui appellent, qui veulent boycotter telle ou telle partie. Moi, je veux juste rappeler une chose, c'est que lui, comme nous tous, comme moi, nous sommes fonctionnaires. Nous avons la responsabilité d'un service public de l'enseignement et nous avons la responsabilité de nos élèves. Et vis-à-vis d'eux, je considère que notre responsabilité est plutôt de leur permettre de passer sereinement ces épreuves qui se passent dans des conditions normales et pour lesquelles ils jouent leur bac, plutôt que d'aller dire qu'on n'a pas trouvé un sujet parmi les 800 qui avaient été proposés.
Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES FSU, vous avez entendu ce que nous a dit Didier à Caen. Est-ce que c'est une position qui est partagée par le SNES FSU? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre au niveau national éventuellement pour ce genre de démarche?
Effectivement, c'est une position qui est partagée par le SNES FSU, puisque nous appelons à des modalités d'action qui permettraient de bloquer les E3C. On le fait en toute connaissance de cause. Vous avez parlé du sens de la responsabilité. Parlons-en de la responsabilité. Le SNES FSU, dès la mi-octobre, vous a interpellé sur l'état d'impréparation des épreuves en pointant ce qui n'allait pas. Nous l'avons fait régulièrement à l'occasion du comité de suivi. Nous n'avons jamais eu aucune réponse de votre part à ce que nous avons pu pointer. Nous avons pointé aussi des problèmes dans la Banque nationale de sujets. Vous nous parlez du nombre de sujets qui sont disponibles. Parlons du contenu des sujets plutôt que du nombre. On a pu faire le constat, par exemple, avant les vacances de Noël, qu'il y avait très peu de sujets en mathématiques dans la voie technologique. Et voilà que la banque ouvre le 9 décembre. Le 20 décembre, des collègues en mathématiques reçoivent un mail de leur inspecteur, alors dans diverses académies, leur disant « bah écoutez, en fait, il y a encore un problème technique, donc il va falloir attendre un peu avant de pouvoir avoir tous les sujets ». Et le 6 janvier, ils reçoivent de nouveau un mail de leur inspecteur, ça s'est passé dans plusieurs académies, leur disant « bah écoutez, vous constaterez qu'il y a des erreurs et des coquilles dans les sujets, et il va de soi que vous pourrez modifier les sujets comme vous le souhaitez pour corriger ces erreurs ». C'est écrit noir sur blanc dans des mails d'inspecteurs. Donc on voit bien quand même que l'état d'impréparation perdure. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de responsabilité, la responsabilité n'est pas de se dire on appelle à faire telle ou telle action. La responsabilité, c'est de dire on ne peut pas envoyer nos élèves dans le mur, on ne peut pas assister à cette espèce de désastre pédagogique qui arrive. Et la responsabilité, maintenant, elle est dans votre camp, celle de prendre la mesure de ce qui se passe et donc de reporter et d'annuler cette première session de 3C.
C'est ce que vous demandez, que les épreuves soient reportées?
C'est ce que nous demandons au SNES FSU, ça fait un moment qu'on le demande et désormais une très large intersyndicale le demande puisque dans la lettre au ministre qui a été rendue publique ce matin, c'est quasiment toutes les organisations syndicales, y compris celles avec lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord sur le fond de la réforme. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons tous sur la question des E3C, c'est inédit et le ministère doit en prendre la mesure.
Mais vous demandez, de reporter la première session de ces contrôles continus qui est prévue jusqu'à début mars au deuxième trimestre, c'est ça que vous demandez concrètement?
Nous, ce qu'on demande concrètement, c'est l'annulation de la première session de 3C, que la deuxième session, celle qui va arriver au printemps, soit transformée en épreuve nationale, terminale et anonyme, puisque c'est ainsi pour nous que l'égalité devant l'examen sera respectée et non pas par les E3C telles qu'elles se précisent. Et voilà, c'est ce qu'on demande et c'est ce que les collègues disent en ce moment en agissant dans les établissements et ils sont très nombreux à le faire.
Edouard Geffray, comment vous réagissez face à cette demande de cette intersyndicale et notamment du premier syndicat du secondaire qui vous interpelle directement pour le report de cette session?
Alors, plusieurs éléments. Le premier, je n'ai pas de camp autre que le service public de l'enseignement et je crois qu'on ferait mieux de ne pas en avoir ce sujet parce que voilà, on parle de nos élèves. Ma réaction, c'est une réaction qui part justement du point de vue de l'élève. Les élèves sont entrés en scolarité en première en sachant qu'au mois de janvier-février, ils auraient des épreuves sur ce qu'ils auraient révisé. Aujourd'hui, certains disent que les conditions ne sont pas réunies. Normalement, pour faire une épreuve, il faut une convocation, une salle, des copies, un sujet et des modalités de correction. Tout ça est défini, tout ça existe. Donc tout est prévu pour que les épreuves puissent se dérouler normalement. La dernière chose, c'est que si d'aventure on annulait ou si on reportait les épreuves, je le rappelle juste quand même pour information, ça aurait pour effet de conduire nos élèves à devoir réviser l'ensemble du programme en fin d'année, éventuellement en passant deux fois de suite une épreuve à un mois d'intervalle, alors que précisément tout l'enjeu, c'est qu'on les fait passer sur des pans du programme. C'est-à-dire qu'en février, ils passent sur trois mois, en mai, ils passeront sur les trois mois suivants, etc. Dernière chose, les épreuves pèsent chacune 1,67% de la note du bac total, donc il faut aussi ramener ce que sont les E3C à ce qu'est le bac en général dans sa nouvelle formule.
Sonia Princey.
Mais si tout est prévu, pourquoi alors certains inspecteurs disent de ne pas prendre en compte certains exercices dans les épreuves ?
Alors, il peut y avoir des comportements individuels qui ne correspondent pas à ce qui est dit et indiqué. Et donc, c'est pour ça que nous avons, pas plus tard que cet après-midi, renvoyé ce qu'on appelle un pas à pas, pour être sûr que tout le monde, j'allais dire, maîtrise bien chaque étape de l'exercice. Hein. Ce qui est certain, c'est que les sujets sont bien des sujets nationaux, avec interdiction de les modifier. D'accord ? Ça, c'est la première chose. On n'a pas le droit de modifier les sujets. Les sujets sont nationaux. Et les sujets sont bien corrigés de manière anonyme, puisque les copies seront anonymisées. Et leur notation fera l'objet, comme pour les épreuves du bac dans son ancienne formule, d'une commission d'harmonisation, de manière justement à éviter tout effet correcteur, sujet ou établissement.
Alors on va revenir sur cet aspect-là dans un instant, mais on va passer la parole à Anaïs, qui est professeure d'anglais à Créteil. Bonsoir Anaïs, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit mon collègue devant, même si je suis d'accord avec l'ensemble. Moi, je voudrais parler un petit peu de cette thématique de l'évaluation, parce que en fait, je pense que votre invité ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un élève de première, ne connaît pas vraiment son niveau. Les sujets de bac dont il parle de façon assez désagréable d'avant faisaient l'objet de commissions qui duraient un an pour être formées, puis de tests. Ensuite, on évaluait, on essayait les grilles pour voir si elles fonctionnaient. Et une fois que tout ça était prêt, on choisissait un sujet parmi tous ces sujets. Or là, on nous a, par magie, sorti 800 sujets en mathématiques. Enfin, moi, je suis professeur de langue, de leur chapeau, en 6 mois. Et avec une grille d'évaluation, c'est ça dont je voudrais parler, qui comporte 18 items. Et cette grille d'évaluation nous a été connue très tard. En fait, j'ai l'impression qu'on s'attend à ce qu'un professeur soit un exécutant, qu'il donne un sujet, il le fait passer, il l'évalue. Mais en fait, cette grille d'évaluation, on nous avait carrément promis une journée de formation pour nous aider à la comprendre tellement elle est compliquée. Donc, comment est-ce qu'on veut évaluer nos élèves correctement avec un outil qu'on ne maîtrise pas? Moi, j'ai l'impression que, en fait, il y a une sorte d'entêtement qui va aller à l'encontre du bien-être des élèves, à l'encontre de leur réussite. Et ça, dans mon établissement, ça nous pose un énorme problème. Donc voilà, nous on demande également le report de cette session des E3AC qui est en l'état pour nous infaisable du point de vue des élèves et du point de vue des enseignants.
Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, va vous répondre à Anaïs. Édouard Geffray.
Écoutez, les sujets, alors moi j'entends les critiques, etc. Et enfin voilà, je les respecte profondément. Mais les sujets ont quand même été conçus de manière collégiale par des inspecteurs généraux, par des inspecteurs et par des professeurs. Donc des gens qui sont devant élèves. Je ne suis pas professeur d'anglais, donc je ne prétends pas savoir ce qu'est le niveau exact et le sujet exact d'un élève d'anglais. En revanche, il y a des gens dont c'est le métier, des professeurs, comme notre auditrice, peut-être pas elle, mais ses collègues, qui ont travaillé sur ces sujets, et ces sujets ont été produits ensemble, et dans une logique justement qui permet d'avoir un niveau homogène d'un sujet à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi la première fois qu'on a justement des banques de sujets. C'est-à-dire que les professeurs peuvent accéder à un ensemble de sujets qui correspond à leur discipline et dans le niveau en question, et qui donc leur permettent aussi, en termes pédagogiques, c'est justement intéressant de se familiariser avec le niveau d'exigence vu du point de vue du sujet pour former les élèves. Donc, moi j'entends évidemment ce qui est dit, et peut-être que, enfin, certainement d'ailleurs, tout n'est pas parfait. Et on va continuer à travailler là-dessus tous ensemble, les professeurs et les inspecteurs. Mais ces sujets ne sortent pas d'un chapeau. Et la grille d'évaluation, qui est une grille qui vient à l'appui de l'évaluation par le professeur, ne sort pas non plus d'un chapeau. Elle a été produite dans les mêmes conditions et par les mêmes personnes.
Sophie Venetité, sur cette question des grilles d'évaluation, Qu'est-ce qu'on dit au SNESFSU?
On a constaté qu'effectivement, les grilles qui avaient été produites, alors, en sachant qu'il y en a qui sortent encore ces derniers jours, ce qui montre quand même bien l'état d'impréparation, ces grilles sont extrêmement complexes à comprendre et c'est très difficile pour un professeur de se les approprier. Et puisqu'on parlait des élèves, effectivement, il faut qu'on parle des élèves. Sur la question de leur évaluation, il faut bien voir avec quelle précipitation cette évaluation dans le cadre des E3C a été menée. Comment peut-on préparer décemment des élèves à des épreuves qui se passent 3 mois après leur entrée en première, avec le rythme d'apprentissage qui leur est imposé au regard des programmes, notamment de certains programmes en première. Donc là, on leur a demandé d'avaler en 3 mois un programme qui est extrêmement lourd, alors qu'on n'a même pas les moyens de travailler sur les difficultés des élèves, et en plus de se préparer à des épreuves sur lesquelles nous avons appris des choses au fur et à mesure du premier trimestre. Donc ça relève quasiment de la mission impossible et de la mission impossible pédagogique. Et c'est bien dans l'intérêt des élèves que nous demandons aujourd'hui le report et l'annulation de cette session, puisque nous ne souhaitons pas, en tant que professeurs responsables, emmener nos élèves droit dans le mur.
Sonia Princey.
Oui, pour bien comprendre ce qu'on entend par pression sur les élèves, comme le disait Didier tout à l'heure, notre premier auditeur, il faut comprendre que les élèves, depuis le début de l'année, effectivement depuis septembre, sont sous pression, puisque les bulletins comptent pour 10% de la note finale du bac, les E3C comptent pour 30% de la note finale du bac, et ce qu'ils racontent les élèves actuellement, c'est qu'ils sont sans arrêt en train de passer des contrôles, c'est-à-dire les professeurs leur font très régulièrement passer des contrôles pour justement s'entraîner, avoir de meilleures notes, ne pas faire baisser les moyennes, etc. Donc, ils sont vraiment sous pression depuis 4 mois. Là.
Alors, Sonia, si je peux me permettre, ce que vous dites, on va prendre en ligne à présent Lovpreet Singh, qui est secrétaire nationale de l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. Bonsoir, vous êtes bien là ?
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous reconnaissez dans ce que vient de dire Sonia Princey sur l'état d'esprit, sur le fait qu'effectivement, il y aurait des contrôles tout le temps depuis le début de l'année ?
Oui, totalement. Et j'aimerais rajouter des éléments en plus, puisqu'il y a plein d'élèves.
Je précise que vous êtes en première à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Hein.
Oui, c'est bien ça. Je suis élève en première au lycée Eugène Hénaff à Bagnolet. En fait, il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que les programmes ont été modifiés, pas forcément de manière bien, mais le souci, c'est que depuis des mois, il y a plein d'élèves qui n'ont pas eu de manuel, qui étaient adaptés justement au nouveau programme. Par exemple, nous, les manuels, on les a eus juste avant les vacances. Et il y a des élèves qui ont eu leur manuel à la rentrée, justement, puisque les programmes étaient modifiés. Et pour certains élèves qui n'ont pas eu leur manuel pour pouvoir réviser les épreuves 2-3C, notamment en histoire-géographie, on leur dit achetez un manuel et le lycée ne pourra peut-être pas vous en fournir. Et il y a plein de choses comme ça. Et le stress au niveau des élèves, il est juste immense. Puisqu'on nous dit on sera en contrôle continu et on peut pas préparer sereinement notre bac. Il y a un autre souci aussi, c'est que le bac, désormais, il est local, n'est plus un bac national. J'entendais l'argument du monsieur, mais le souci qui se pose, c'est que maintenant, quand un élève passe un bac à Lyon, Marseille ou Bordeaux, ou bien à Bagnolet, le bac ne sera pas le même. Alors qu'avec le bac précédent, que vous ayez passé votre bac à Paris, à Bagnolet, à Marseille ou Lyon, c'était le même bac, vous aviez les mêmes questions, vous aviez les mêmes exercices, donc sa valeur était la même. Alors que désormais, il y aura une certaine discrimination qui sera produite, puisque le bac ne sera pas le même. J'entends aussi l'argument quand le monsieur dit...
Alors je précise que le monsieur, c'est Édouard Geffray, et qu'il est directeur général de l'enseignement scolaire. Je vous le dis comme ça, c'est quand même important. Voilà.
J'entends l'argument aussi qu'il y a 800 sujets, mais le souci, c'est que sur les 800 sujets, les corrections dans les établissements vont être pratiquées par les professeurs de l'établissement aussi. Je remets pas en doute la foi des professeurs également ou la foi de l'établissement, mais il y a aussi des risques que l'établissement, juste pour, se valoriser, mette des notes qui sont pas forcément les mêmes que ce qu'il devrait y avoir, et que ça remette en cause l'impartialité justement des correcteurs.
Alors on va voir tout ça. Merci beaucoup Love Prit Singh, secrétaire national de l'UNL. On va reprendre les choses dans l'ordre. D'abord sur le stress que vous évoquez, ce que disait Sonia Princey. Édouard Geffray, vous l'avez entendu, ils sont sous pression depuis le début. Là. Le contrôle continu voulait justement quelque chose de plus calme tout au long de l'année, mais visiblement ce n'est pas tellement le cas.
Alors d'abord, je ne suis pas sûr que les points de vue qui ont été émis, même s'ils sont une fois encore très sincères, soient universels, parce que je rencontre quand même un certain nombre de lycéens qui ne disent pas exactement la même chose, même s'il y en a qui le vivent comme ça, hein, je veux dire, c'est pas le problème, mais tous ne le vivent pas comme ça. Première chose. Deuxième chose, je pense que c'est important de revenir à ce que c'est une fois encore. D'accord. Et pour nos auditeurs, je crois que c'est important. Je rappelle que les épreuves communes de contrôle continu comptent pour 30% de la note finale. Si je rapporte ça à chaque épreuve, donc les 3 ou 4, si je suis en voie technologique, qui vont avoir lieu au mois de février, celles qui vont ensuite avoir lieu au mois de juin, puis celles qui vont avoir lieu au mois de juin de l'année de terminale, chaque épreuve compte grosso modo pour 1,67 ou 2% du baccalauréat. Donc ce sont des épreuves importantes parce que c'est le bac, mais ce n'est jamais rédhibitoire. L'élève ne joue pas son bac sur une épreuve ou deux épreuves ou trois épreuves du contrôle continu. Et ça, c'est important quand même d'avoir esprit.
Sur les discriminations territoriales, sur le fait que ce ne serait plus un bac unifié, national, qu'est-ce que vous lui répondez, Edouard Geffray?
Alors, auparavant, on était corrigé déjà par les correcteurs de son académie et il y avait une commission d'harmonisation académique. D'accord? Avec un sujet qui était par contre un sujet effectivement national. Aujourd'hui, il y a des sujets nationaux sur la partie E3C qui sont choisis par l'équipe pédagogique par rapport à ma situation de progression. Donc au contraire, j'allais dire, c'est très, ça colle exactement à là où j'en suis, et on peut en être à des endroits différents parce qu'un professeur a été absent ou je ne sais quoi, ou malade, ou voilà, ou parce qu'on a choisi telle ou telle partie du programme avant telle autre, d'accord. Et ensuite, on a toujours une correction anonyme, donc exactement de ce point de vue comme c'était avant, une correction qui est faite par les professeurs d'établissement parce qu'il y a un enjeu de cohérence pédagogique, et c'est des professeurs qui ont travaillé en équipe pour tout ça, et une commission d'harmonisation qui, là encore, va faire exactement ce que faisait le travail des commissions d'harmonisation dans le bac précédent, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas eu, justement, d'anomalie. Donc, on a les mêmes garanties, mais simplement, on est une logique de contrôle continu, c'est-à-dire insérée dans une scolarité normale.
Sophie Venetité, sur ces deux questions, sur les corrections faites de manière anonyme et sur le fait que le bac ne serait plus le même partout, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, d'abord, pour en venir aux élèves, puisqu'on parle bien d'eux, leur stress est bien réel, tout simple. Nous, on le constate tous les jours dans nos établissements, tout simplement parce que l'évaluation n'est plus cet outil pédagogique dont on a besoin pour faire progresser les élèves. Il est devenu un outil de pression pour les élèves, un instrument de stress pour eux, parce qu'ils sont effectivement soumis à une course permanente à l'évaluation. C'est ça qui est aujourd'hui devenu l'année de première. Et tout ce qu'on pouvait faire avec les élèves pour les faire progresser, faire un exercice dans la perspective de les faire progresser, désormais ça devient un exercice sujet à une évaluation qui compte d'une manière ou d'une autre. Alors vous avez beau nous dire sous forme de pourcentage quelle est la façon dont ça compte dans le baccalauréat, ce que retiennent les élèves et la réalité, et ce que nous savons, c'est que cela compte. Et c'est ça, le fait que tout ce qu'ils font tous les mois, toutes les semaines, compte, qui génère du stress parce que nous n'avons pas le temps après de nous arrêter avec eux pour travailler sur les problèmes qu'ils rencontrent. Sur les questions d'inégalité locale, d'inégalité entre les établissements et de bac local, on a beau avoir un certain nombre de paroles très rassurantes sur le cadre qui pourrait exister, ce qu'on voit arriver là dans les académies ou les établissements, c'est déjà des pratiques très différentes, des recommandations qui sont parfois différentes. Je disais que dans certaines académies, on dit que peut-être on peut toucher au sujet, donc vraiment modifier les sujets d'une certaine manière, enfin jusqu'où on va aller, puisqu'on dit qu'on pouvait corriger les coquilles, mais jusqu'où on va aller pour modifier les sujets. Vous nous avez parlé de progression de sujets qui correspondraient aux progressions. Or, ce qu'on a constaté, nous, c'est que beaucoup de collègues sont désemparés parce qu'ils ont travaillé depuis le début de l'année sur une progression, donc en se disant je vais faire tel ou tel chapitre, et ils se rendent compte que les sujets ne collent pas. Donc on a aujourd'hui plein de problèmes qui se posent, les problèmes qui ont été cités, et plein d'autres en termes d'impréparation, ce qui conduit à la situation, l'impasse dans laquelle on est, dont on pourrait sortir si on entendait ce que disent les personnels et les lycéens.
Je vous donne la parole dans un instant, Édouard Geffray, mais on va repartir au standard de France Inter. Nicolas est en ligne d'Aurillac. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Alors vous êtes parent d'élève, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Moi, je suis parent d'élève d'une élève qui est donc en première, qui va donc passer ses premières épreuves très bientôt. Et je voulais témoigner, moi, pour aller vraiment dans le même sens que ce qui vient d'être dit, du stress de ma fille, mais du vrai stress, c'est-à-dire voire de l'angoisse, avec des crises de larmes, avec en disant je suis pas prête, je vais pas y arriver. Et on aura beau m'expliquer, moi en tant que parent, que ça compte, que c'est noyé dans les 30% ou dans les 10% ou dans je ne sais pas quoi, pour ma fille, c'est à chaque fois un enjeu avec quelque chose qui compte. Et là, elle se retrouve dans un tel état de stress que les notes chutent, alors que l'année dernière en seconde, ça allait, que son brevet, Gérald l'a eu avec mention très bien, bon, peu importe, mais voilà, pour des élèves comme ça, avec ce stress permanent, ce sentiment de compétition, de je ne sais pas comment le définir, ben finalement, on en arrive à déstabiliser certains élèves et à les voir chuter dans leurs résultats. Donc je pense que c'était vraiment grave pour ces élèves-là, que c'est contre-productif ce système et cette réforme. Et je vois bien que les professeurs, ils l'encadrent, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais qu'ils se sentent, je crois, un peu démunis aussi, quoi.
Merci beaucoup, Nicolas. Édouard Geffray, ce sont des appels qui arrivent très librement au Standard de France Inter, je le précise. On n'a pas sélectionné des gens particulièrement stressés ou anxieux. Ce sont des témoignages qui arrivent au Standard de France Inter. Vous les entendez ?
Ah, mais je vais plus que les entendre. Je suis pas du tout, enfin je relativise pas du tout la difficulté ou le stress de tel ou tel. Je pense simplement qu'on a un travail collectif, je dis bien collectif, qui est de remettre et de bien veiller à redonner le sens de tout ça. C'est-à-dire, on peut avoir des différences sur est-ce qu'on est pour ou contre le cours continu, est-ce qu'on est pour ou contre les E3C, est-ce qu'on a peur ou pas de la technique de dématérialisation des copies, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais il faut aussi, parallèlement, que collectivement, on revienne au cœur du réacteur, c'est-à-dire dire aux élèves que, un, ils vont passer des choses progressivement là où avant ils avaient un rush final. Oui, ça récompense effectivement la régularité du travail, mais non, ça ne doit pas aboutir à un stress qui serait totalement contre-productif. C'est clairement pas ça qu'on cherche. Et donc, je suis le premier à être désolé de ce qui est dit par le papa de cette jeune élève. Oui, c'est bien une note qui a une dimension pédagogique parce que les élèves, pour la première fois, verront leur copie, ils les verront annotées. Elles auront été corrigées par quelqu'un de manière anonyme et donc ils sauront comment se positionner et ils pourront progresser grâce à ça. Et je crois que si on est capable collectivement de remettre cette nécessaire sérénité dans le dispositif, alors nos élèves vont très vite, ceux de nos élèves qui s'inquiètent, et une fois encore je l'entends et vraiment je suis en sympathie au sens étymologique du terme avec eux. Je pense que ces élèves en retireront tous les fruits de manière beaucoup plus sereine, tout simplement, parce que bien sûr ils auront leur bac.
Sonia Prince. Mais est-ce que ce n'est pas parce que tout s'est fait très vite, les sujets sont arrivés trop tard, certains enseignants, même la semaine dernière, ne savaient toujours pas quand auraient lieu ces E3C, ces épreuves de contrôle continu dans leur lycée. Donc forcément les enseignants ne peuvent pas préparer leurs élèves, ne peuvent pas être sereins vis-à-vis de leurs élèves.
Alors, d'abord, la réforme en tant que telle, comme vous le savez, elle a quand même commencé il y a 2 ans. Elle se met en place sur 2 ans. Donc, elle sera totalement terminée en juin 2021, première chose. Deuxième chose, les sujets, il y a eu une semaine de retard. On avait prévu de les ouvrir le lundi 2 septembre. L'ouverture de la base a été reportée au lundi 9 septembre. Il y a eu une semaine de
retard.
elle devait ouvrir le lundi 2 décembre et ça a été ouvert le lundi 9 décembre. Ce qui laisse au minimum 6 semaines aux professeurs pour choisir des sujets. Je rappelle que quand les professeurs avant faisaient des bacs blancs, il était rare qu'ils choisissent les sujets 6 semaines avant. Troisième chose ensuite, l'organisation dépend des chefs d'établissement. C'est-à-dire que c'est eux qui disent quel jour et à quelle heure vont se passer les épreuves. Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir des écarts dans les positionnements ou les comportements ou les choix des chefs d'établissement. Et donc ça, c'est justement... on va encore travailler là-dessus en cas du comité de suivi, évidemment. L'enchaînement est bien celui-ci. Puis ensuite, il y a une phase de correction qui est longue, puisque tout ça aboutira pour le 15 mars. Et à partir du 15 mars, les élèves pourront récupérer leurs copies annotées et corrigées.
Alors, petite question sur ces copies anonymes et numérisées. Comment ça va se passer? Les enseignants vont devoir corriger sur ordinateur. Sophie Vénitité, vous savez maintenant comment vous allez procéder?
Alors, la solution technique nous a été présentée lors du comité de suivi, mais dans les établissements, beaucoup de collègues ne savent pas comment cela va se passer. Certains nous disaient, ah, mais on m'a annoncé une formation la semaine prochaine pour savoir comment manipuler l'outil. D'autres nous ont dit, je ne sais toujours pas comment je vais corriger mes élèves dans 10 ou 15 jours. Donc là encore, on est dans cet état d'impréparation, puisque les collègues ne savent pas concrètement comment ils vont faire. Alors, j'entends bien là les appels à la sérénité. C'est un peu facile d'appeler à la sérénité après qu'on ait eu un trimestre de mise sous pression d'un peu tout le monde, de changements qui arrivent, de choses extrêmement compliquées à encaisser, que ce soit sur les programmes ou la mise en place de la réforme. Donc aujourd'hui, les collègues qui agissent d'une manière ou d'une autre sur les E3C, c'est bien parce qu'ils sont poussés à cet extrême, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix au regard des conditions dans lesquelles ils sont mis pour pouvoir faire passer ces épreuves.
Alors je voudrais qu'on prenne maintenant Bruno, il est dans l'heure, il est proviseur adjoint. Bonsoir Bruno.
Bonsoir et merci de prendre mon appel.
Eh bien je vous en prie, on vous écoute Bruno.
Voilà, je voulais ramener un petit peu de... Alors tout à l'heure on a parlé de sérénité, et c'est vrai que je voulais ramener un petit peu de sérénité parce que quand vous avez présenté les E3C, en fait vous avez parlé d'épreuves. Alors ce sont des évaluations, c'est du contrôle continu, la notation rentre dans le cadre du baccalauréat, mais ça reste une évaluation comme en fait des évaluations au quotidien, comme on fait des contrôles, comme les enseignants le font très régulièrement. Et quand on regarde ce qu'a dit Sonia tout à l'heure sur les 30%, oui, les 30% du bac, mais sur les 3 sessions, 2 en première, 1 en terminale, et quand on ramène ça à chaque discipline, en fait, chaque discipline a un poids très modéré.
Donc pour vous, le système est plutôt bon?
Alors, je ne vais pas revenir sur la précipitation ou sur le côté on est un petit peu prévenu au dernier moment sur certaines choses, l'organisation, etc. Mais oui, c'est plutôt bon. Et moi, mon travail, et avec les enseignants, c'est d'arriver à rassurer tout le monde, les élèves, les parents, les enseignants, en disant ce ne sont que des évaluations. En fait, c'est exactement comme si on avait un contrôle commun, mais avec une base nationale au niveau des sujets.
Donc vous allez organiser ça très très bientôt dans votre établissement, c'est ça ?
Ça commence le 20, le planning, les convocations des enseignants, c'est déjà prêt, les convocations des enseignants, c'est déjà des élèves, c'est déjà prêt aussi. Le planning est fait, oui, tout à fait.
Pas de souci de votre côté. Merci merci beaucoup Bruno pour cette intervention. Oui, Edouard Geoffrey, oui. Tout le monde nous appelle.
Là, vous avez... J'ai aucun doute là-dessus.
Voilà. Petite question pour vous, Sophie Vénétité. C'est Joël qui nous écrit sur franceinter.fr. Ma fille est une bonne élève et me dit qu'elle ne ressent pas tellement de stress par rapport aux modalités de contrôle. Elle ressent en revanche beaucoup de tension chez les enseignants. Aïe.
Alors que la fille de cette auditrice se prépare comme il faut, c'est une bonne chose, que des élèves puissent s'en sortir dans ce contexte-là. Après, il faut aussi penser à tous les élèves et notamment aux élèves qui sont en difficulté et qui sont retrouvés encore plus en difficulté du fait des incertitudes qui existent dans l'ensemble des équipes des lycées. Les tensions dans les équipes des profs, elles existent, c'est évident, elles existent, mais parce qu'elles ont été exacerbées par les informations ou les non-informations qui nous ont été données. C'est-à-dire que, il y a des collègues qui ont passé des jours, des soirées à essayer de comprendre comment cela allait fonctionner. Donc oui, il y a des équipes sous tension, des équipes fatiguées. J'entendais parler de sérénité vraiment tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une rupture assez stupéfiante avec ce qui se passe sur le terrain. On a des collègues épuisés par la mise en place de la réforme. S'ajoute la question des E3C. Donc oui, aujourd'hui, il y a des tensions dans les équipes, mais elles sont le fait de la mise en place très difficile de cette réforme.
Sonia, peut-être que... Sonia Princesse, est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question sur les mathématiques? Parce qu'on a été interpellés de ce point de vue-là aussi par rapport au niveau exigé.
Alors, sur la spécialité mathématique, effectivement, il y a des élèves qui ont fait part de leurs difficultés à suivre, puisque le niveau est assez exigeant. Puisqu'avant, il faut se replacer aussi avec ce qui existait avant. On avait une filière S et une filière ES où il y avait des mathématiques, mais avec un niveau différent. Et là, on se retrouve avec une spécialité mathématique pour tout le monde. Et il se trouve que certains élèves qui auraient été plus attirés par la filière ES, économique et sociale, se trouvent un petit peu perdus. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, créer 2 spécialités? Je sais que ce n'est pas forcément dans les tuyaux, si je puis dire, mais est-ce que ce ne serait pas judicieux pour permettre à ces élèves de pouvoir quand même continuer les mathématiques pour leurs études plus tard?
Edouard Geoffrey.
Alors, sur les mathématiques, il y a effectivement un niveau d'exigence qui correspond au fait que c'est une spécialité, comme les autres spécialités. D'accord. En revanche, compte tenu du fait que ça a été pris par quasiment 69% des élèves, en combinaison avec d'autres spécialités, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une hétérogénéité assez forte des niveaux. Ce qu'on ne retrouve pas dans des disciplines plus resserrées, si je puis dire, en termes d'effectifs. Et donc, il y a eu des travaux en cadre du comité de suivi, au sein duquel siège
Sophie Benedetti,
enfin en tout cas son organisation et elle quand elle la représente, les premières conclusions, enfin les suites qu'on a données à ces premiers travaux ont été de travailler sur la dimension pédagogique, notamment en termes de groupes de niveau, de manière à avoir des apprentissages peut-être plus progressifs pour les élèves qui sont moins à l'aise, et puis différencier pour des élèves qui sont plus à l'aise. L'idée étant qu'à la fin, tout le monde a bien fait tout programme, évidemment, à la fin de l'année première. Deuxième chose, celui qui ne retient pas la spécialité maths en terminale pourra suivre l'option maths complémentaire, donc continuer à faire des maths jusqu'à la fin de sa scolarité au lycée.
Sonia, puis après,
des groupes de niveau, et au final, une épreuve qui sera la même pour tout le monde. Comment les élèves pourront passer la même épreuve s'ils n'ont pas eu des cours avec de même niveau?
Alors, le niveau sera bien le même in fine, simplement en termes de compétences. Au lieu d'avoir des groupes potentiellement très hétérogènes, et donc de potentiellement avoir des élèves qui tirent un peu la langue, l'idée, c'est de plutôt fonctionner en groupe de compétences, effectivement, en termes pédagogiques, et d'avoir une approche qui soit un peu plus différenciée, mais pour le résultat à la fin, qui est exactement le même en termes de formation et de niveau acquis.
Alors, je vais vous poser la question de Julien, parce que là, on n'a plus le temps de le prendre au standard de France Inter. Julien est à Lons-le-Saunier. Il nous pose la question suivante. Est-ce vrai que les terminales qui vont rater le bac cette année devront retourner en première pour suivre les nouvelles modalités d'examen? Et c'est vrai que c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en terminale et qu'on rate son bac, puisque les élèves de première sont en train de passer les épreuves Sophie Benedetti?
Il y a toujours eu des dispositions transitoires et qui existent aussi pour cette session-là et qui permettront aux élèves qui redoubleront leur année de terminale de s'y retrouver. Quand même, je vais apporter une précision sur les mathématiques. Nous n'avons jamais défendu la question des groupes de niveau telle qu'elle a été énoncée. Nous, ce qu'on a dit, c'est que le problème principal, c'était le problème du programme. Or, les annonces qui ont été faites par Jean-Michel Blanquer ne prennent pas le problème sous cet angle-là, mais le prennent sous le problème de l'exercice par les professeurs, ce qui est assez insultant quelque part, parce qu'on a fait notre maximum pour le faire, et il aurait davantage fallu travailler sur le programme plutôt que sur l'organisation par groupe de niveau. Donc ça montre bien encore une fois que les réponses sont un peu à côté de la plaque, et surtout on n'a aucune assurance aujourd'hui que les maths complémentaires pourront être présentes partout au regard des dotations qui sont annoncées dans les établissements.
Et là, on a parlé mathématiques, mais il y a eu des annonces du ministre cette semaine concernant, par exemple, le français, l'anglais. Les choses sont revues petit à petit. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des ajustements pareils sur le programme en cours d'année?
Écoutez, c'est normal à partir du moment où on décide d'avoir une approche de dialogue et où on écoute les gens. Il y a un comité de suivi qui est là précisément, étant qu'en plus on est sur une première année d'exercice d'une réforme importante, pour faire des propositions et des préconisations. Dans ce cadre-là, il y a un sujet qui est apparu sur le français, et donc on a fait en sorte d'apporter justement le nécessaire.
Merci beaucoup Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet. Merci beaucoup Sophie Benedetti. Je pense qu'on va vous rappeler pas tard aussi pour la suite des événements. Un grand merci à vous Sonia Princet. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à Irène Menahem qui m'a aidé à préparer cette émission, à Marion Lelay qui l'a réalisé. À la technique ce soir, Philippe Duclos, Stéphane Boja, Charles Pellabon. Merci aussi aux standardistes qui ont réceptionné vos appels, et à Amel Meyer qui a lu vos mails. Juste après 20h, Julia Foyce, Passons Genre. Bonsoir Julia.
Mais bonsoir.
Quel est donc le programme ce soir?
Et ben, on va parler de la question du genre en cuisine.
C'est votre cuisine, truc,
disons-le. Oui. Tous les vendredis,
machisme,
oui.
Parce que c'est toujours les hommes, les grands cuistots, alors que c'est les femmes qui font la cuisine au quotidien, c'est ça?
Les chefs sont des hommes, oui.
Mais on va écouter, ce sera passionnant.